Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille le dimanche de 11h à midi. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le nouveau président de la Ligue des Flandres, Frédéric Scott. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Une fonction pas trop lourde, parce que tu as été élu le 18 avril. Est-ce que tu avais déjà été président de motoclub ou d'une autre association?
Oui, je suis président d'un motoclub de Gouillon-Artois depuis 2005. Donc, la moto pour moi est quelque chose, c'est une passion avant tout. J'ai pratiqué la moto très jeune. Des obligations professionnelles ont fait qu'il a fallu mettre de côté la moto à une certaine période. Et puis mon fils, je lui ai passé la passion de la moto, on a pris le relais ensuite. Et donc voilà, j'ai pratiqué aussi les sports mécaniques automobiles. Et il a fallu faire un choix à un moment de suivre mon fils qui commençait à faire des résultats. Donc j'ai arrêté les sports mécaniques automobiles pour le suivre. Et voilà, donc je suis dans le domaine de la moto depuis, et les sports mécaniques en général depuis très longtemps.
Très bien, donc la présidence pour toi, c'est pas une nouveauté quoi, tu connais, sauf que la Ligue c'est un peu plus important, non, à gérer, non?
C'est une charge.
Un peu plus de temps et la charge de travail
c'est
un peu plus.
C'est une charge de travail.
Qu'un motoclub.
Absolument, ouais. C'est une charge de travail très importante. Je ne m'attendais pas franchement à avoir autant de travail, autant de sollicitations. En plus de ça, on a essayé, contrairement à l'ancienne Ligue, d'être beaucoup plus disponible pour pouvoir répondre à la demande de nos pilotes et de nos motoclubs. Effectivement, on passe pas mal de temps pour ça. Encore une fois, c'est une passion, c'est un challenge que je me suis lancé, c'est une expérience supplémentaire et j'en suis très heureux aujourd'hui.
Très bien, et donc tu n'es pas seul aujourd'hui, tu es avec Patrick Pontini du motoclub de Pécancourt et aussi membre de la Ligue des Flandres. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Tu fais partie des commissions, parce que ça fonctionne comme ça la Ligue, hein, avec des commissions vitesse, cross, motocross, enduro.
Enduro, oui.
Voilà. Et ma discipline de prédilection, enfin celle que je suis depuis des années et pour laquelle j'ai une grande passion, le motocross, les courses de sable, voilà. Donc on essaie avec Eric, Isabelle et quelques membres de... donner un gros coup de main à Fred, parce que c'est vrai que c'est une tâche, je vais pas dire ingrate, mais qui prend énormément de temps. Et sans vouloir jouer la brosse à reluire, mais je crois que Fred mérite d'avoir comme ça des gens autour de lui pour l'aider quoi, dans sa tâche.
Voilà. Très bien, on termine ce sommaire avec notre ami Gilles Fagnin. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suppose qu'on va parler Superbike et aussi Endurance. Alors Superbike avec la fameuse finale qui s'est passée il y a 15 jours, 3 semaines là, donc à Magny-Cours.
Effectivement.
Avec Max Biaggi qui a gagné d'un demi-point. Je savais pas qu'il y avait des demi-points.
Ouais, on vous expliquera ça. Mais finalement, j'ai tellement un programme immense et je vois qu'il y a des invités en masse. Mais finalement, moi aussi, j'ai amené un invité qui sera avec nous tout à l'heure par téléphone. Il s'agit de Piero Taramasso. Alors, si vous ne savez pas qui est Piero Taramasso, bien évidemment, vous écoutez l'émission, ça sera vers 11h30, on l'aura au téléphone. Et il sera en direct de Brignoles dans le Var pour la finale du championnat du monde d'enduro qui a lieu en ce moment même. Voilà, en même temps que le Grand Prix de Malaisie de Sepang.
Woman, she worked her mojo spell on me.
Notre invité aujourd'hui dans le magazine de la moto, c'est Frédéric Scott, le président de la Ligue des Flandres. Frédéric, on peut peut-être revenir un petit peu sur ce que fait, à quoi ça sert d'avoir une ligue. La Ligue des Flandres gère le 59, le 62,
oui. Hein,
avec 40 motoclubs, donc
2000 licenciés.
Et 2000 licenciés.
Ouais, ouais. Donc, ce que, en premier, la Ligue, quelle que soit la Ligue en France, elle est là pour représenter la Fédération française au plan local. Donc, on est avant tout la Fédération française. On est là aussi pour gérer donc les motoclubs. On est là pour mettre en place un calendrier de compétition, pour homologuer les terrains en préfecture et aussi répondre à toutes les questions des pilotes. Quoi.
D'accord. Les pilotes de vitesse, les terrains. Oui, il y a aussi le petit problème. On m'a demandé de poser la question. C'est le petit problème de Jean-Michel Sulski, le terrain de Condé.
Ouais, c'était
sur
un...
Il y a un gros problème, ouais. Justement, où les propriétaires veulent récupérer les terrains.
Ouais. Jean-Michel...
Est-ce que la Ligue gère aussi ces petits problèmes-là?
Alors, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vraiment géré ce problème parce que c'est un problème très compliqué. Le terrain que loue Jean-Michel depuis plus d'une vingtaine d'années est propriété des voies navigables. Et les voies navigables veulent reprendre ce terrain pour... a priori, déposer des bouts.
Voilà, donc, c'est ça, oui.
Et,
voilà.
Puis, donc, et ils l'ont mis en situation régulière, occupation illégale du terrain, ce qui est complètement hallucinant, puisqu'il paye un loyer depuis, je crois, 25 ans. Donc c'est un problème très compliqué. Il a rencontré les politiques ces derniers temps pour essayer de solutionner le problème. Mais c'est un dossier très compliqué. On va essayer. Il y a des gens.
C'est une fonction aussi d'éducation pour les jeunes aussi qui le week-end viennent aussi sur le terrain s'entraîner, tourner sur les 5 ans.
Absolument. Il vaut
mieux avoir des jeunes sur un terrain de motocross que les avoir sur le.
Absolument. C'est tout à fait exact. Hein. Il faut encadrer les jeunes pilotes et sur des terrains qui sont homologués et où la pratique du motocross est la plus sécurisée possible. Jean-Michel est quelqu'un de passionné depuis de nombreuses années. Il mérite vraiment qu'on s'occupe de son dossier pour trouver une solution.
Le championnat de course sur sable, c'est aussi la Ligue des Flandres qui gère.
C'est aussi la Ligue des Flandres, oui, tout à fait. Il y a 6 épreuves en France et 3 à la Ligue des Flandres et 3 à la Ligue d'Aquitaine. Oui. Donc on a dans l'ordre la Beach Cross qui vient de se dérouler il y a 15 jours. On a ensuite l'Une Plage qui va être le 17 et 18 novembre. Et la finale à l'Enduro du Touquet, le 2 et 3 février 2013.
Alors finalement, ce championnat n'est pas très connu, hein, en fait. On parle beaucoup du Touquet. C'est un peu comme l'endurance. Hein. Il faut gagner le bol d'or, mais il ne faut pas gagner le championnat du monde d'endurance. On en parle très peu, en fait. C'est moins... Gilles.
C'est moins médiatisé.
C'est
pour ça qu'on est là.
Et le championnat de...
Il faut gagner le Mans et le bol, ouais.
Le championnat de course sur sable, c'est pareil. On en parle très peu, en fait, finalement.
Alors,
mais on parle beaucoup du vainqueur de l'enduro.
Absolument. Je connais beaucoup de pilotes qui me disent il vaut mieux gagner l'enduro du Touquet que le championnat de France de motocross. En termes de notoriété, c'est beaucoup plus important. En termes de rentabilité, c'est beaucoup plus important aussi.
Oui,
puisque
une
victoire au Touquet,
oui.
C'est quand même, je pense, le salaire assuré pour le pilote sur l'année. C'est très important. Donc, on a aussi travaillé avec la Dream Team pour essayer de renforcer un petit peu le chemin de France de sable qui avant était géré par l'enduro. Il n'y avait pas vraiment de championnat, enfin il n'y avait pas vraiment de règlement. C'était un petit peu entre le motocross et l'enduro. Et aujourd'hui, il y a un comité des sables dont je fais partie. Il y a un président qui est le vice-président de la Fédération française. Donc les choses bougent dans le bon sens. On va avoir des remises de prix en fin d'année un peu plus conséquentes. Et je pense que c'est un championnat qui va petit à petit être très reconnu.
keeper if he can't file. If I get bored, I change my religion to get the Lord.
Invité aujourd'hui dans le magazine de la moto, Frédéric Scott. Frédéric, on va peut-être reparler de cette fameuse Dream Team association qui est apparue il y a deux ans maintenant, je pense, l'accident.
Après une série d'accidents.
On sait que le motocross, enfin, au moins l'enduro, les enduristes payent un.
On a payé très cher, on a payé très cher sur. C'est mon fils, malheureusement, qui a ouvert le premier avec un accident grave à l'enduro du Touquet. Ensuite, on a eu le décès de Denis Jason. Quelques mois après, on a eu Timothée en novembre, ça va faire 3 ans, là, en novembre. Et puis d'autres, j'ai un pilote de mon motoclub qui s'est tué en entraînement aussi sur un autre terrain. Donc après le décès de Timothée, on a fait la Dream Team pour essayer de trouver des solutions. Bon, notre sport, malheureusement, est un sport à risque, hein, il faut le reconnaître, le risque zéro n'existe pas, mais il y a des choses qui pouvaient être améliorées pour pouvoir faire ce sport dans des conditions un peu plus favorables en termes de sécurité. Donc on a donc créé cette association, on a œuvré pour présenter des choses qui vont dans le bon sens, avec des pilotes de notoriété qui savent de quoi ça parle. Et on a travaillé, Sergueï Potisek, qui en est le président, a fait un énorme travail auprès de la Fédération française pour imposer des choses qui ont été acceptées. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a une commission de sable avec des gens qui travaillent sur le championnat. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi sur la sécurité des terrains, avec une visite de terrain par une personne confirmée avant chaque course, pour voir s'il n'y a pas un saut qui est un petit peu à refaire par rapport
Valider le circuit, en fait.
Absolument. Donc, c'est des choses qui ont été mises en place. Et je pense qu'on a fait un bon travail. Tout n'est pas fait. Hein. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Depuis que je suis passé président, je me suis retiré de la Dream Team, puisque les deux ne sont pas compatibles. Mais je reste derrière eux et à leur écoute pour pouvoir faire avancer les choses.
Alors les axes, c'est quoi ? C'est la sécurité passive, l'accessoire pour pouvoir
en premier lieu la sécurité du pilote, la sécurité du public, avoir des terrains qui soient bien protégés par rapport au public. C'est des règles de base de ne pas conduire une grosse cylindrée si on n'a pas les capacités pour le faire.
Limiter là donc la cylindrée à des gens qui ont moins de 18 ans, hein, c'est ça,
Moins de 16 ans.
Moins de 16 ans.
Moins de 16 ans. Mais,
parce qu'auparavant, on pouvait.
Un
gamin de 16 ans pouvait piloter une 450.
On pouvait piloter une 450.
Ah, moi, j'ai jamais piloté 450 en enduro, mais il paraît que c'est des bombes.
C'est des machines qui ont énormément évolué, qui sont très très puissantes aujourd'hui. On peut quasiment, avec une machine stock, faire des résultats. Quoi. Il faut juste améliorer pour les courses de sable, la suspension et puis le refroidissement. Mais oui, ce sont vraiment des machines très très performantes.
Oui, qu'un jeune a du mal à maîtriser, quoi, finalement.
Alors après, il est clair qu'il y a des jeunes qui sont excellents dès 16 ans et qui ont un gabarit pour pouvoir conduire ce genre de machine. Après, c'est un peu l'appréciation des parents qui peuvent juger si le gamin est en mesure de pouvoir conduire une telle machine. Mais ça reste quand même des engins très très puissants. Oui.
Et puis, c'est quand même un budget, ces machines-là.
C'est un budget, c'est un sport qui coûte très cher. On s'en rend compte de plus en plus avec... les temps qui courent, financièrement, c'est très difficile pour pas mal de nos pilotes et ça coûte de plus en plus cher, effectivement.
On va faire un saut en 2013. Le Touquet, c'est le 3 et 4 février.
Hein. Oui.
C'est à peu près la même date que cette année. Hein.
Oui, tout à fait.
Bon, j'espère qu'il ne va pas neiger.
Oui, enfin, on a eu...
parce que je te dis ça, parce que nous, on a eu une drôle d'histoire.
On a eu une super émission.
Nous étions...
au relais Calmos de le parc et on attendait les motards qui sont jamais venus.
Tu imagines qu'il y a au moins 2000-3000 motards qui s'arrêtent en Royal Calmos
et qui ont malheureusement
je vais te dire, il n'y a pas eu un motard
et qui ont malheureusement fait demi-tour.
S'il y en a eu un
mais on a eu une année vraiment exceptionnelle au Touquet. C'est vrai que on a travaillé, je fais partie de l'organisation, donc je donne un coup de main à David Hockey qui trace le terrain. Oui. On a travaillé tard le soir avec les bulles pour faire un terrain convenable. Et la météo avait annoncé de la neige. Oui. Je suis allé me coucher vers minuit. Oui. Il n'y avait absolument rien. Il faisait vraiment très très froid. Oui. Et je me suis dit, c'est impossible qu'il neige. Et David m'a appelé vers 5h30 en me disant, il y a 10 cm de neige sur la plage, complètement déboussolé. Donc j'ai pris une douche, je suis allé effectivement et on a déneigé la plage. J'ai rencontré avec le directeur de course le sous-préfet de Montreuil qui nous a un peu pris pour des fous. Il nous a dit, attendez, comment vous allez faire? Le convoi, c'est glacé par terre. Donc les services techniques du Touquet ont fait un travail remarquable. On a réussi à déneiger, pas l'intégralité du parcours, mais presque. Ouais. Et il fallait absolument sauvegarder l'épreuve. Il faut savoir que c'est une épreuve très difficile à mettre en place.
Bah, oui.
Et si elle était annulée, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés pour pouvoir organiser l'année prochaine. Donc on a réussi ce pari. On nous a pris pour des fous. La course s'est très très bien déroulée. Il y a eu très peu de blessés.
Et du soleil.
On a eu des images fantastiques à la télé.
Donc, voilà. C'est clair.
Donc, pour 2013, j'ai appris qu'il y avait un petit changement. Donc, les 40 premiers pilotes, donc les pointures, en fait.
Les deux sergents, oui.
On va avoir un paddock à part, séparé.
En fait.
Est-ce que ça fait pas le. Pourtant, l'enduro du Touquet, c'était. De Thierry Sabine, c'était ça. Le truc, c'était que les poireaux peuvent aller, les amateurs peuvent tourner en même temps que les pros.
Absolument.
Et là, on va séparer maintenant les deux, alors.
Absolument. En fait.
On va un peu partir un petit peu de cet esprit-là.
Si vous voulez, l'idéal serait d'avoir l'intégralité des pilotes au Touquet. Et il faut une surface de 6 hectares, donc c'est complètement impossible. C'est une idée qui a été lancée par David Hockey. Il a loué la structure pitline qu'on retrouve en championnat du monde. Je pense que ça peut apporter un plus au niveau des sponsors et tout ce qui s'ensuit, mais malheureusement il faut faire un choix. Donc il n'y a que 40 places, c'est les 40 dossards jaunes qui vont avoir ces places. Effectivement, c'est un petit peu, je pense au 41e, au 42e qui va être à Stella. Oui, c'est un peu, mais bon, voilà, on va faire l'expérience cette année. On va voir un peu si ça prend bien.
Donc, il va y avoir deux courses, en fait, dans la course, en fait. Donc,
il n'y aura pas de course, ce sera exactement pareil. Mais il y aura, les pros qui
les
seront.
Pros, et puis donc,
enfin, pas les pros, parce que les 40 premiers numéros.
Les amateurs, quoi.
Les 40 premiers numéros sont le résultat pour les 20 premiers du Championnat de France 2011-2012. Et les 20 autres, ce sont des pilotes de notoriété, effectivement.
Les invités.
Et bon, voilà, c'est. Je pense que. Pour le public, c'est quelque chose de fantastique puisqu'ils vont pouvoir assister au ravitaillement.
Ouais.
Mais bon, voilà, il faut trouver des solutions. C'est pas facile. On n'a pas la place pour mettre tout le monde au touquet, malheureusement. Et bon.
Très bien. Merci.
Keeps happening all over and over again. Well, man is a creature that likes to spill blood. There will come a man who just wanna spread love. I said, war is heavy on me.
Frédéric, je propose de faire une pause. On va enchaîner avec l'endurance et puis le Superbike avec Gilles.
Oui, parce qu'on aura un invité au téléphone juste après. Alors, effectivement, la dernière fois, j'étais en direct des 24 heures moto. Je vous avais promis de revenir un peu sur ce championnat du monde. C'est Suzuki, évidemment, qui a encore à nouveau remporté ce championnat. Mais on voit que Kawasaki s'est beaucoup rapproché donc au classement mondial. Et puis aussi, en troisième position, on trouve une BM, la BM qui a finalement... qui monte sur ce podium du championnat du monde. Et puis on s'aperçoit que derrière Honda, avec notamment John McGuinness, hein, mais pas seulement, mais je veux dire, on fait une excellente.
Ce fameux pilote
du Tourist Trophy, dont Honda TT Légende. Ouais. Ils ont fait une saison très régulière et puis ils commencent à vraiment connaître ce championnat. Alors l'année prochaine, ils vont revenir et à mon avis, ils sont de plus en plus affûtés. Il faudra les attendre. Alors, il y a aussi à travers ce championnat qui a été très disputé. Donc, quand vous comptez bien, il y a 5 marques de pointe aux 5 premières places. Donc Suzuki, BM, Yamaha, Honda dans l'ordre et Kawasaki. Kawasaki qui n'était pas engagé avec le Kawasaki France sur l'ensemble du championnat, mais sur les deux courses, il marque 80 points, c'est-à-dire le maximum, 2 fois 40 points. Ils remportent à la fois le Mans et le Bol. Et ils ont aussi, c'est vraiment les Verts, c'est des extraterrestres, ils ont aussi remporté 3 fois de suite les 24 heures moto. Alors, qui pourra battre Kawasaki? On attend la décision de Gilles Stafleur, qui est le team manager qui engage éventuellement ou pas cette moto pour l'ensemble du championnat du monde l'année prochaine. Pour l'instant, on est dans l'expectative. Et puis, il y a aussi, à travers ce championnat, une bataille pour les pneumatiques. Parce que, en fait, Suzuki roule en Dunlop. BM et Yamaha France GMT94 sont en Michelin et l'Honda TT Légende Dunlop et Kawasaki en Pirelli. Donc il y a au moins 3 manufacturiers qui se battent aux 5 premières places. Alors on a eu l'idée d'interviewer Pierre Taramasso qui est le responsable d'activité de roues compétition de chez Michelin. On va le joindre juste après cette pause musicale. Il est à Brignoles dans le Var, donc on va lui téléphoner et il va nous dire un peu ce qu'il a pensé de sa saison et ce qu'il envisage pour l'année prochaine.
We'll be right back.
Magazine de la moto, c'est le dimanche de 11h à midi, c'est sur Campus Lille. Voilà, aujourd'hui avec notre invité Frédéric Scott, président de la Ligue des Flandres. Président, mais derrière tu as toute une équipe qui gère aussi le courrier et puis les licences aussi, hein, parce que je suis allé sur le site et il y a beaucoup de choses à faire.
Oui, alors c'est une équipe d'environ 25 personnes avec une secrétaire générale et notre secrétaire Maryse qui est disponible la semaine pour pouvoir faire tout ce qu'il y a besoin de faire. On a aussi des pilotes de notoriété dans notre groupe. On a Arnaud de Mester, on a Jean-Claude Mousset, on a David Hoquier, on a, enfin bref, tout un panel de gens qui sont très importants dans le monde de la moto pour pouvoir réaliser de belles choses. Et on a aussi un noyau dur dont Patrick Pantini ici présent en fait partie, où on a un noyau dur de 6 ou 7 personnes qui sont présents sur chaque compétition. Et je voulais vraiment les remercier parce que ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui prennent sur leur temps pour pouvoir faire leur passion. Et sans ces gens-là, c'est complètement impossible à faire.
Il n'y a que des bénévoles à la Ligue ou il y a des gens qui sont rémunérés pour
Il y a uniquement la secrétaire qui est rémunérée, oui, tout à fait. Oui. Oui. Mmh. Mais moi-même, je suis bénévole, je n'ai aucune rémunération. Et voilà, c'est avant tout des passionnés.
Et donc, les motoclubs, vous avez des réunions, je suppose, avec les clubs de la région pour établir ce fameux calendrier là,
On va avoir une assemblée générale fin novembre.
Déjà, il faut déjà prendre les dates, il ne faut pas avoir
des
ronronnances sur les dates.
Le 17 novembre, oui. On a une assemblée générale avec l'ensemble des présidents des clubs et on va commencer à travailler sur le calendrier 2013.
Donc les motocross, c'est uniquement le club ou la Ligue ramène les commissaires de piste? Il y a les commissaires de piste aussi qui font.
Il y a les commissaires de
oui. Hein, s'il n'y a pas de commissaires de piste, il n'y a pas de compétition.
Exactement.
Ça,
ouais.
C'est clair.
On a un déficit de commissaires important. C'est pas facile. Il y a deux fédérations. On a la nôtre et on a aussi du FOLEP.
Ouais.
Lorsqu'on a une compétition le même week-end. Dans les deux fédérations, c'est très compliqué d'avoir le nombre suffisant de commissaires. Donc, je voudrais profiter de la parole que vous me laissez pour dire que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés pour être commissaires, ouais. La Ligue des Flandres prend en charge leur licence.
Oui, voilà. Il ne faut pas faire trop peur aux gens parce que tu penses bien que maintenant, les gens, dès qu'il faut commencer à s'engager dans quelque chose, ça y est,
il faut être passionné.
Être commissaire de piste ça, sur un an, sur une saison, ça ferait combien de fois est-ce qu'on est obligé d'être quand on est appelé?
C'est en fonction des disponibilités de chacun.
On peut dire bah non, j'ai le repas avec mamie, je peux pas y aller.
Non, mais c'est ce qui arrive forcément. Les gens sont pas forcément disponibles tous les week-ends lorsqu'il y a une compétition. L'important c'est d'avoir un nombre suffisant justement pour pouvoir avoir le nombre requis pour
le. Il y a une formation.
Il y a une formation, oui, qui.
Et je dirais que, en ce sens, un petit merci, enfin, Fred l'a oublié, mais sûrement sans le faire exprès, il y a quand même Eric, hein, Eric Poteau, qui est quand même responsable des commissaires. Je le seconde derrière, je lui donne un coup de main. Et c'est vrai que c'est une gestion. C'est une véritable gestion, parce qu'on est déjà comme ça, il n'y a pas trop de monde. Donc l'appel qui est fait, si vous voulez devenir commissaire, moyennant une.
Alors, c'est rémunéré, Patrick, ou comment ça marche?
C'est une rémunération, enfin une compensation financière, un défraiement.
Le problème, c'est que commissaire de piste, par exemple, au Touquet, il faut être là du vendredi. Le vendredi à arriver, c'est le week-end. Hein.
Oui, alors, contrairement.
Si on prend l'exemple du Touquet, par exemple.
Contrairement à nos épreuves de ligue, on n'a pas trop de soucis pour trouver des commissaires au Touquet. C'est une épreuve où il y a beaucoup de candidats, des autres ligues d'ailleurs, hein, qui viennent de loin pour faire commissaire au Touquet. C'est surtout sur nos courses de Chemin des Flandres.
Ça, et donc là, c'est la journée en fait. Hein.
C'est la journée, tout à fait, du matin.
Donc ça va encore.
Ouais. Oui,
donc.
Mais il faut être quand même passionné. C'est sûr que lorsqu'il y a un peu de poussière ou lorsqu'il pleut, c'est pas très agréable de rester toute la journée. Il faut être passionné.
Bon, l'avantage, c'est que tu étais au bord du circuit.
L'avantage, c'est qu'on est aux premières loges pour suivre les courses.
Pour voir le spectacle. Hein.
Absolument.
On est dedans. Absolument.
C'est vrai. C'est quand même
intéressant.
C'est bien, quand même.
Absolument.
Donc il y a un défraiement, je suppose, quand même, pour au niveau.
Oui, c'est de l'ordre d'une cinquantaine d'euros.
Et puis les repas.
Les repas sont fournis.
Et la prise en charge de la licence.
La prise en charge la licence, par la Ligue, oui.
Ça, par la Ligue, ça c'est important, parce que qui dit licence dit aussi, c'est une forme d'assurance, hein. En cas de pépin, il faut à tout prix être licencié. Donc, ça nécessite une petite formation, connaissance quand même des drapeaux.
Oui, les drapeaux,
les drapeaux essentiels, mais ça, une formation qui est faite sur un après-midi, bon. Un samedi, des choses comme ça. Bon, donc, s'il y a des volontaires,
sur le site internet,
il suffit d'aller sur
le site. Il y a les coordonnées, la Ligue.
Absolument, il faut aller sur le site de la Ligue des Flandres.
Ligue des Flandres, et puis c'est bon.
Absolument, on peut faire une demande de licence en ligne, l'éditer, l'envoyer à la Ligue et on prendra en charge le coût de la licence.
Et c'est aussi sur le calendrier de Kikinkout et Tulpa.
Et c'est aussi sur le calendrier.
Et je terminerai en disant, venez, vous verrez, il y a une bonne ambiance.
Oui, non, mais on
passe. Et en plus, ce soir, il y a une bonne ambiance.
Non, mais voilà,
On sait vivre.
Oui, non, mais on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on est une équipe soudée et on passe vraiment d'excellents moments.
Ouais. Oui, en plus.
En plus d'assouvir notre passion, on passe d'excellents moments.
Ben voilà. Gilles, petit problème de téléphone, notre invité manque de réseau, c'est pas grave, on va peut-être l'avoir dans 3 ou 4 minutes.
Dans le courant de la fin de l'émission, il reste 15 minutes, je vais essayer quand même de dérouler un peu ma rubrique Superbike. Alors, si je vous dis 1m70, 66 kg, vous pensez à qui
Max.
Eh oui, Max. Le fameux Max Biaggi. Alors, Max. Il vient d'engranger son 6e titre de champion du monde, un peu pour mémoire. Son premier titre, c'était en 2,5 avec Aprilien, en 94. Et 94, 95, 96, il a enchaîné les 3 titres alors qu'il avait commencé sa carrière qu'en 92. C'est un petit génie, un surdoué de la moto.
Et finalement, il a bien fait d'aller en Superbike. Hein.
Et en 97, avec Honda.
Alors, parce qu'en MotoGP, il serait...
Alors, en MotoGP, il a un peu subi la loi du genre de Rossi, évidemment, mais c'est quand même
le poulie d'or du MotoGP.
Bah, par rapport à cette période, enfin, en tout cas, il a quand même aligné 4 titres d'affilée.
Ouais, quand même, ouais.
4 titres d'affilée, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et c'est vraiment un grand monsieur. Alors, en 2010, déjà, il avait remporté le titre de champion du monde Superbike. En 2011, il a connu une année un peu en demi-teinte et puis aussi le revers de Ducati avec Carlos Checa en 2011. Et puis cette année, en 2012, il a fait une saison carrément incroyable avec un final à Manicourt à Coupelsouf dans la mesure où il est arrivé avec plus de 30 points d'avance sur son poursuivant Tom Sykes, Kawasaki.
Ça s'est joué à demi-point. Hein.
Et en première manche, il chute. Il chute dès le début de la course. Ouais. C'est vrai qu'on était sur des conditions de piste humide. Et qui a eu, c'était un peu le Day on Ice, un peu comme ce matin à Sepang d'ailleurs, avec des chutes de pilotes des tout meilleurs, hein, en première manche et en seconde manche, hein, notamment Marco Melandri. On s'est dit que, vu les conditions de course, on allait revivre le 5 août à l'envers, c'est-à-dire que le 5 août, en fait, les pilotes français avaient brillé en Angleterre en montant sur le podium et même en gagnant des courses. Alors, ça a été le cas aussi ce week-end. Où il y a eu, effectivement 4 pilotes qui ont brillé, qui sont montés sur le podium, notamment en super stock Jérémy Guarnoni, qui est monté sur le podium devant Sylvain Barrier, gagne la course. Mais Sylvain Barrier, lui, quant à lui, remporte le titre de champion d'Europe super stock. Et puis en super sport, on a Jules Cluzel qui est un pilote prometteur, puisque il est deuxième du championnat du monde cette année. Alors il devance Fabien Forêt qui est de 10 ans son aîné, qui est plus ancien dans la catégorie. Et donc on fonde beaucoup d'espoir sur ce jeune Cluzel l'année prochaine, puisque il y a de fortes chances qu'il reste en super sport. Tandis que le vainqueur Sofuoglu était déjà titré, lui il a en tout cas gagné la course ici en France devant son public.
C'est un Turc, un pilote turc.
Alors Sofuoglu
qui est parti en moto, qui était en...
C'est un pilote turc qui avait couru en superbike allemand d'abord, et puis en fait du superbike allemand est passé en superbike mondial. Et donc il a déjà été titré plusieurs fois, mais par contre il n'a pas remporté la course en France. C'est Jules Cluzel qui a remporté. Et puis on a aussi surtout en catégorie reine, on a
Sylvain Guintoli,
alors qui a fait aussi une prestation remarquable. Moi j'étais à Adélaïde juste devant la tribune en train de faire des photos, et je vous assure que le vombrissement du public qui hurlait à chaque passage de Sylvain,
comme au Grand Prix du
Grand Prix de France, en Superbike maintenant, avec, on a notre champion français, c'est ce que je voulais dire, avec Sylvain Guintoli qui a fait vraiment une prestation terrible, qui est d'ailleurs passé dans un team un peu meilleur en cours d'année. Et dans les conditions humides, en tout cas, il surclasse tout le monde, et ça nous a fait énormément plaisir. Voilà, alors évidemment pour l'instant on n'a pas eu notre invité, c'est dommage, parce que on est aussi sur des pneumatiques uniques en Superbike pour le moment, mais je pense que Michelin a des ambitions concernant le Superbike, et essaye de pousser pour que on puisse passer sur des manufacturiers des manufacturiers différents, puisque vous savez qu'aujourd'hui on est monomarque sur le Superbike et sur le GP, donc on attend un jour peut-être la Dorna se décide à libérer tout ça, et puis qu'on ait des courses plus disputées, avec une importance donnée aux pneumatiques plus importante. Alors au niveau des constructeurs en supersport, c'est quand même Honda qui est devant grâce à la victoire de Jules Cluzel. Kawasaki qui le talonne. Loin derrière, on a Triumph, Yamaha qui s'est retiré du Superbike cette année, et puis Suzuki en dernier avec seulement 6 points. Alors on se demande un peu ce que Suzuki fait, parce que on s'aperçoit qu'en endurance, Suzuki gagne tout. Ils ont quand même aligné 12 titres. En MotoGP, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc il y a quand même comme ça des choses qui sont un peu bizarres, mais c'est en fait directement lié, on en parlait tout à l'heure, aux moyens que les marques mettent dans les différents championnats. Alors justement, concernant les moyens que les marques mettent dans les différents championnats, vous savez que la crise impacte aussi la moto. Et on se demande donc si l'année prochaine le plateau sera suffisamment étoffé. En tout cas, ce qui sera étoffé, c'est le calendrier, puisque on a déjà reçu les dates pour l'année prochaine au niveau du Superbike, et on s'est aperçu qu'il allait y avoir une course qui était prévue en Inde. Il y a celle de Russie qui va être aussi renouvelée.
Ah bon, Frédéric, tu vois, on aime maintenant.
Voilà, alors c'est vrai.
Peut-être du motocross après, peut-être aussi en Inde. Hein.
On a aussi en motocross, la première manche est à Abu Dhabi, je crois. Et les teams en chemin du monde, évidemment. Et excuse-moi, mais les teams se posent aussi des questions parce qu'en termes de budget,
ça va leur coûter.
Justement, puisque tu en parles, c'est le parallèle que je vais faire aussi. Puisqu'en endurance, on n'avait que 5 épreuves cette année. On avait une épreuve au Qatar qui disparaît. Et la FIM, qui est aujourd'hui organisatrice, se demande où on va bien pouvoir faire courir les pilotes, sachant qu'on sait déjà que les deux courses de 24 heures uniques au monde qu'on a en France,
oui, c'est en France, hein.
Le Mans et le Bol, et on parlait du prestige de gagner le Touquet, c'est aussi le prestige de gagner le Mans, le Bol, pour des équipes étrangères également. Donc succès jamais démenti. On sait déjà qu'il y aura Suzuka, qui est confirmé, et au Schwarzleben qui est renouvelé. Alors au Schwarzleben, qui est un circuit, moi je conseille à tout le monde d'y aller parce que c'est un circuit qui a été rénové entièrement, et il y a un accueil des Allemands fabuleux. C'est à 700 km d'ici, c'est tout à fait jouable. Je vous en reparlerai au cours de l'année. Voilà, donc ce que je voulais faire, j'ai pas eu notre invité au téléphone. Si jamais, en fin d'émission, on peut l'avoir. On verra bien. Merci. Oui, petite interruption,
on l'a au téléphone.
Ça y est, Pierrot Taramasso est avec nous au téléphone. Allô, vous m'entendez ?
Oui, bonjour Gilles.
Bonjour. Voilà, alors vous êtes responsable activité de roue compétition Michelin, hein, évidemment, vous êtes engagé en toute la saison en endurance cette année, avec des résultats quand même relativement satisfaisants. Est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats ? C'est-à-dire que vous faites deuxième du championnat, deuxième et troisième ?
Oui, exact, ouais. On est très content. On a fait deuxième et troisième championnat du monde. On a gagné des courses, on a fait des pires positions, on a réalisé les meilleurs tours en course plusieurs reprises, avec différents partenaires, différents pilotes. Donc je peux dire que globalement, on est très très satisfait. Oui.
Parce que vous étiez engagé aussi en CEV, en championnat espagnol, en championnat italien, en championnat allemand. Alors vous avez remporté le championnat allemand avec Erwan Nigon. Est-ce que cet engagement multiple va vous permettre encore de renouveler l'année prochaine en endurance ? Est-ce que vous serez toujours présent ?
Oui, Oui, l'endurance reste notre priorité. Donc on sera toujours présent dans le championnat du monde d'endurance. On va continuer aussi en Espagne où on a gagné. On va continuer en Italie. On est en train de travailler sur le France et dans d'autres pays pour voir notre engagement. Et comme vous savez, la compétition, c'est un laboratoire qui met au service de l'innovation pour transférer après les technologies sur le pneu du commerce. Donc on essaye de travailler un peu sur tous les fronts.
Est-ce que vous savez quels seront les teams qui vont porter les couleurs Michelin l'année prochaine ou pas?
Ce n'est pas décidé encore. On y travaille dessus. Bien sûr, nos partenaires historiques, on a le plaisir de continuer avec eux. Eux, ils voudraient continuer avec nous le niveau de la performance des pneumatiques Michelin. Donc on est en négociation, je ne peux rien vous dire, mais on sera présent avec des teams de pointe.
D'accord. Je vous remercie, Piero Taramasso. Vous êtes actuellement à Brignoles, championnat du monde enduro. Il fait beau?
Oui.
D'accord, il y a du beau temps. Est-ce qu'il y a des pilotes français qui sont en pointe?
Ah oui. Là, cette année, les pilotes français, ils ont fait un quartier plein. Donc, nous, on a Mathias Bellino qui a gagné avec Michelin et la Moto Guzzoberg en catégorie junior. Et aujourd'hui, ce soir, si tout va bien, on va gagner aussi en catégorie E2 avec Pierre-Alexandre René, qui est notre français.
Je vous remercie de votre intervention dans l'émission qui a écouté tout près l'émission des motards. Et puis, à bientôt. Et merci pour cet engagement Michelin en compétition.
Merci à toi, Gilles. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, il nous reste... Il nous reste 3 minutes, on va terminer cette émission avec Frédéric. On a parlé de la Ligue, hein, du rôle de la Ligue, de la Dream Team. On a parlé des commissaires, il faut des commissaires, sinon pas de commissaires, pas de compétition, hein, c'est obligatoire. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, Frédéric?
Je voudrais dire aussi qu'on a nos pilotes de quad, puisqu'on parle très très peu des quads. C'est à mon avis encore plus physique que la moto. Je voudrais dire qu'ils ont brillé dernièrement à la Coupe des Nations. Deux pilotes de la Ligue des Flandres, Mathieu Ternin et Romain Coupry. Ils ont gagné la Coupe des Nations en Hollande. Et avec le troisième pilote... Jérémy Vernia, voilà, je cherche après son nom. Et je voulais leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils ont vraiment fait un résultat exceptionnel.
Petite question quand même sur les filles. Il y a de plus en plus de filles aussi qui roulent. Est-ce que c'est quelque chose en direction desquelles vous allez faire peut-être un effort ou quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des actions?
On va au sein de la Ligue. On a une fille dont je ne pourrais pas vous dire son nom, qui est championne de France de quad. On va les récompenser au sein de la Ligue. Mais c'est vrai que c'est un sport avant tout masculin, mais on a de plus en plus de filles. Qui participent à ce sport. Oui.
C'est quelque chose que vous souhaitez encourager?
Malheureusement, on peut faire un classement filles, hein, c'est ce qui est fait d'ailleurs sur pas mal d'épreuves. De là à lancer régionalement une course, une compétition pour filles, on n'a pas suffisamment de pilotes pour ça. Donc c'est complètement impossible.
Bon, des petites nouvelles, Benjamin?
Alors Benjamin va bien, je pense qu'il est en train de nous écouter sur le web, donc on lui souhaite au mieux qu'il puisse, il a conservé un petit handicap, mais il travaille, il fait du vélo, il fait du sport.
Ça s'arrange, voilà.
Très bien. Et on le voit sur tous les circuits, c'est ça qui est formidable.
Il est resté passionné, oui.
Bon, alors tant mieux. Patrick du Motoclub de Pécancourt, on a la date du salon?
9 et 10 mars.
On note, 9 et 10 mars, voilà le prochain salon, ce sera le 42e salon.
Et la Ligue des Flandres aura son stand sur le salon.
Oh, c'est fantastique.
Et j'y serai présent, bien évidemment.
Et Kikinkou aussi.
À côté de Kikinkou.
Ah, c'est merci.
Gilles, plus rien à dire?
On attend la prochaine saison. Alors, je vous parlerai du calendrier la fois prochaine, parce que là, on a pris de cours. En novembre ou décembre, voilà, on aura les confirmations de ce qui est envisagé pour l'année 2013.
On verra un petit peu plus clair pour 2013.
Tout à fait.
Bon, Frédéric, merci d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Campus. Un dimanche matin, c'est pas facile. Hein,
merci de m'avoir invité.
Merci
de m'avoir invité. Je reviendrai avec plaisir.
Très bien. Merci, Patrick, également. Hein, fait de la route.
Merci à vous.
Passez un bon dimanche. Et on se retrouve forcément dimanche prochain, 11h. Sur l'antenne de Campus 106,6 ou sur le net.